C'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, la fin du monde n'aura pas lieu. Ma première invitée est convaincue que la science et le progrès technique vont nous amener vers une vie meilleure. Elle combat une forme de catastrophisme écologiste et affirme que non, les agriculteurs ne sont pas des pollueurs empoisonneurs. C'est la géographe et économiste Sylvie Brunel, ancienne présidente d'Action contre la faim. Elle publie dans quelques jours un livre qui devrait faire du bruit. Toutes ces idées qui nous gâchent la vie. Sylvie Brunel vient nous en parler en avant-première sur Europe 1. Demain, le retour d'un très grand cinéaste, André Téchiné, et d'une de ses actrices fétiches, Catherine Deneuve. L'adieu à la nuit sort mercredi prochain. Le sujet est grave. Un projet de djihad en Syrie. Son traitement est lumineux, léger, subtil. Catherine Deneuve trouve l'un des meilleurs rôles de ces dernières années. André Téchiné, homme rare qui ne donne aucune interview à la télévision, sera au micro de C'est arrivé demain. Demain, enfin, le nouvel album d'une star de la world music, Youssou N'Dour. Il a conquis 3 continents, mais reste ancré dans sa ville, Dakar, et dans son pays, le Sénégal, où il est toujours ministre. Youssou N'Dour, avec nous ce matin sur Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Voici donc un gros pavé dans la mare écologique, un livre, un propos qui vont à contre-courant de tout ce qu'on entend depuis 10 ans dans le débat public sur le changement climatique, l'alimentation, l'énergie, la biodiversité. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Patrick Cohen.
Géographe, professeur à Sorbonne Université, vous avez longtemps travaillé dans l'humanitaire.
Oui, Médecins sans frontières et Action contre la faim.
Pendant 17 ans, donc je dis ça parce que voilà, on vous connaît, vous êtes quelqu'un de sérieux. Sinon, je ne vous aurais pas invité. Mais vous savez le scandale que va provoquer ce livre, toutes ces idées qui nous gâchent la vie chez Jean-Claude Dattès.
Bah oui, parce que je pense qu'on est très nombreux en France à en avoir assez, qu'on nous assène jour après jour, que c'est la fin du monde, que nous devons faire amende honorable, nous culpabiliser, nous inciter à des choix qui ne sont pas de bons choix aujourd'hui. J'ai parfaitement compris la révolte des Gilets jaunes. Je comprends aussi aujourd'hui la difficulté des chefs d'entreprise, des agriculteurs, de tout un ensemble de professions qui jour après jour travaillent pour nous apporter le meilleur en toute sécurité et se voient en permanence conspuer.
L'idée générale, c'est de dire stop à la peur et au catastrophisme. Non, l'humanité ne court pas à sa perte. La fin du monde n'est pas pour demain, c'est ça ?
Oui, exactement. Nous avons eu des prédictions de fin du monde dans toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons tout un tas de prophètes qui nous assènent d'une voix sépulcrale que tout va de mal en pis, que nous devons absolument changer, que la catastrophe nous attend. C'est absolument inacceptable, c'est démobilisateur, c'est culpabilisant, c'est faux.
Bon, alors, partons du plus consensuel, ce que nos auditeurs peut-être peuvent le plus facilement admettre. Non, la vie n'était pas mieux avant. Vous dédiez d'ailleurs ce livre à vos enfants qui ont la chance de vivre dans un monde bien meilleur que celui où vous avez grandi.
Oui, moi je suis née en 1960. Il faut se souvenir que dans les années 60, l'espérance de vie était de 65 ans, que les contaminations alimentaires faisaient 4000 morts par an.
En France.
En France, bien sûr, que les accidents de voiture faisaient plus de 15 000 morts, que nous vivions dans la précarité, que les femmes de mon âge souvent étaient en mauvaise santé. Donc arrêtons de dire que tout va de mal en pis, même nos paysages sont plus beaux. Nous avons su construire une France belle et prospère. Nous avons une agriculture qui fait de nous un des meilleurs systèmes au monde. Et nous passons notre temps à battre notre coulpe et surtout à pourrir au quotidien la vie des gens qui travaillent et qui essaient justement d'avoir confiance en l'avenir.
Vous avez cité des chiffres au niveau de la France, au niveau mondial. Vous en citez d'autres qui sont édifiants, effectivement. En 1960, nous étions 3 milliards sur Terre, dont un tiers souffrait de la faim. Et nous vivions en moyenne 45 ans. C'était l'espérance de vie de la planète. Un demi-siècle plus tard, nous sommes plus du double, 7,7 milliards. Et pourtant, la faim ne touche qu'une personne sur 12.
Ce qui est déjà trop. Hein.
Ce qui est encore trop, évidemment. Mais nous vivons en moyenne 72 ans, ce qui est un progrès considérable. Alors très bien, Sylvie Brunel, nous nous développons, nous vivons mieux, mais ce qu'on entend habituellement, nous le faisons au détriment de la planète, celle que nous laisserons à nos enfants, parce que nous détruisons la planète, c'est pas vrai ?
Non, nous avons un discours extrêmement catastrophiste qui nous dit que tout se dégrade, que la planète est en train d'évoluer vers la 6e grande extinction, que le climat se réchauffe de façon insupportable, que les épisodes violents se multiplient. En réalité, la géographie, vous savez, c'est comparé dans le temps et dans l'espace, nous montre que certes, nous sommes plus nombreux dans des régions plus vulnérables, les littoraux. Donc, bien sûr, nous sommes plus exposés à des catastrophes qui avant touchaient moins de monde. Et du coup, les assureurs nous disent oui, effectivement, les catastrophes coûtent plus. Mais en réalité, la planète se porte mieux globalement. Alors là, je sens qu'il y a certains auditeurs qui vont hurler, mais l'Europe, par exemple, c'est le continent qui a fait les plus grands progrès en matière d'écologie, en matière d'espérance de vie. Ça ne sert à rien de décourager les gens, de leur dire qu'ils vivent dans la catastrophe. Oui, il y a des pays dans lesquels les écosystèmes se dégradent, bien sûr. Mais quand ces pays se développent, eh bien, leur classe moyenne demande à leur tour que les paysages s'améliorent, que l'air se purifie, que l'eau soit traitée. C'est le cas de la Chine, c'est le cas des Émirats Arabes Unis, c'est le cas de tellement d'endroits dans le monde.
Alors parlons du climat, Sylvie Brunel, et je voudrais que vous clarifiez votre propos. Êtes-vous une climato-sceptique ? Est-ce que vous contestez les observations du GIEC qui forment un consensus scientifique sur le réchauffement continu et dangereux de la planète ?
Alors, je ne conteste pas du tout, évidemment, le GIEC. Il y a effectivement un réchauffement climatique qui a commencé en Europe au milieu du 19e siècle. Nous le voyons
avec la révolution industrielle, mais qui s'accélère depuis.
Alors, on l'a vu, il a commencé avant, suivant les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Il était déjà enclenché quand la révolution industrielle a commencé. Et ce réchauffement climatique, on le voit par exemple à travers les dates de semis, les dates de vendanges qui se sont avancées d'à peu près 3 semaines. Donc, il y a une réalité mondiale. Face à cette réalité mondiale, la réponse, c'est de mobiliser des sommes absolument colossales dans ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire trouver des moyens de décarboner l'économie, et tout le monde est appelé à décarboner. Alors, dans un sens, c'est une bonne chose parce que c'est une marche vers le progrès scientifique qui nous permet de trouver des réponses pour produire mieux avec moins, d'avoir moins de rejets. Donc, tout ça est bien. Ce qui est gênant, c'est que ce qui devrait être mobilisé, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire préparer les territoires à l'incertitude, parce que la réalité, c'est l'incertitude. Personne ne peut dire exactement ce qui va se passer. Cela passe au second plan. Alors que le carbone, qui est déjà dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone, il va y rester de toute façon un siècle. Donc arrêtons de nous gaspiller dans tout un ensemble de guerres qui est en fait une guerre des technologies vertes. Arrêtons de croire qu'il faut absolument faire du carbone l'ennemi. Nous sommes tous de carbone. Le carbone, c'est la base de notre histoire. Et surtout, ne prenons pas de mauvaises réponses. Quand, par exemple, on incrimine l'agriculture, aujourd'hui, elle est climato-intelligente, c'est-à-dire qu'elle travaille justement à une agriculture de précision, quel que soit le modèle, que ce soit le conventionnel, le bio, les circuits courts. Nous avons tout un ensemble de secteurs d'activité dans le monde, les énergéticiens, les urbanistes, bien sûr tout le secteur de l'agroalimentaire, et partout nous avons une espèce de réflexion intelligente qui est à l'œuvre, qui a d'ailleurs été toute l'histoire de l'humanité.
Sylvie Brunel, je vous arrête une minute pour une pause publicitaire. On reprend cette interview sur toutes ces idées qui nous gâchent la vie, le titre de votre livre.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1.
Jusqu'à 10h le dimanche, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec la géographe Sylvie Brunel qui va publier un livre à contre-courant du catastrophisme écologiste et qui nous en parle en avant-première ce matin sur Europe 1. Sylvie Brunel, vous nous avez expliqué que oui, s'il y a bien un réchauffement du climat, il n'est ni nouveau ni très alarmant, mais fondamentalement les objectifs de réduction des émissions de CO2, vous les dénoncez comme un moyen, une façon pour les pays riches d'empêcher le développement des pays les plus pauvres.
Oui, ce qu'on voit bien, c'est que le développement durable a été inventé au lendemain de la guerre froide, quand le Nord a vu émerger le Sud et s'est affolé de tous ces anciens pauvres qui prétendaient vivre comme les riches que nous étions, et qui a dit « mais la Terre va crouler, on ne peut pas, si tous les Chinois avaient une voiture ». Sauf que ce genre de prédiction linéaire ne prend pas en compte d'abord le fait que l'évolution technique fait que la façon dont on vivait hier n'est pas celle dont on vit aujourd'hui, et que quand les gens s'enrichissent, justement, la préoccupation environnementale devient la nôtre, devient la leur.
On est bien face à un risque de catastrophe écologique, Sylvie Brunel. La fonte des glaciers d'une partie de l'Arctique, c'est une réalité tout de même.
Alors, l'Arctique fond, effectivement, c'est une réalité qui donne lieu à tout un ensemble, une ruée sur ce que j'appelle la géopolitique de l'ours blanc, c'est-à-dire chacun met l'ours blanc en avant pour avoir accès aux nouveaux gisements et aux nouvelles routes qui se dégagent. Il y a une ruée sur des territoires qui sont libérés par la fonte des glaces. Quand vous allez voir les Lapons, quand vous allez voir les Sibériens, les Groenlandais, mais eux, ils sont ravis. Ils disent « on va vivre différemment, enfin, nous allons avoir accès à des ressources ». Vous savez, en géographie, on dit « les ressources ne sont pas, elles deviennent ». Une ressource est toujours virtuelle tant qu'on n'a pas la technique pour la mobiliser. Et pour toutes ces régions, où je peux vous dire que la Russie, pour elle, le changement climatique, c'est une aubaine.
Enfin, s'il y a des îles englouties ou des littoraux submergés, c'est un problème quand même.
Alors, vous savez, les îles englouties, il y a tout un discours de Kiribati, de Nauru, de dire… C'est dramatique à cause de vous.
On risque de disparaître.
Il y a une grosse instrumentalisation par les pays du Sud, bien sûr, de ce discours écologique, parce qu'il leur permet aussi d'accuser le Nord et d'exiger réparation. C'est ce qu'on appelle la justice climatique, les pertes et dommages. La géographie montre que ce qu'on appelle le géosystème des îles tropicales est très complexe et que Kiribati ou Nauru, par exemple, gagnent des terres et n'en perdent pas. Qu'on peut tout à fait contrer les effets du changement climatique si l'on arrête de cracher le corail pour faire des îles artificielles, si l'on arrête de défricher de façon irraisonnée, si l'on arrête de d'épuiser les réserves d'eau. C'est-à-dire que la gestion intelligente des ressources permet de faire face au changement climatique. Et quand vous allez par exemple en Floride, eh bien vous voyez qu'il y a une grande mobilisation de toutes ces populations qui savent très bien qu'effectivement la mer monte, qu'il va falloir ne pas occuper forcément les rez-de-chaussée des immeubles, mettre des réseaux dunaires. Et puis il y a d'autres endroits comme la Camargue où on se dit « Ah bah c'est une fatalité, on va laisser la mer monter et puis tant pis pour les gens qui y vivent ». Et c'est ça qui m'horripile, Patrick, c'est qu'il faut d'abord penser à l'être humain. L'être humain vit mieux qu'hier et sa préoccupation aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Et dans la mesure où on a des solutions qui sont des solutions constructives et durables pour tous, arrêtons d'exclure, arrêtons de montrer des gens comme proliférants, nuisibles, destructeurs. C'est pas mobilisant ça. C'est décourageant.
Donc ce qui va nous amener vers un monde meilleur, Sylvie Brunel, c'est la science, les progrès scientifiques.
Oui, c'est la connaissance. Il ne faut pas arrêter d'envoyer les jeunes dans la rue pour marcher pour le climat. Il ferait mieux d'aller à l'école et d'apprendre des choses intelligentes, et notamment les sciences. Parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de connaissances scientifiques. Les scientifiques ne sont plus entendus. Quand vous leur parlez individuellement, ils savent que nous avons des solutions. Ils savent que... Et d'ailleurs, ils y travaillent au quotidien. Et on a cette espèce de discours ambiant qui, en réalité, ne fait que nous décourager. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Quand vous pensez que c'est foutu, bah vous dites « tant pis ». Ils sont tombés.
Enfin, c'est bien quand même que les enfants, les adolescents se préoccupent de l'état de leur planète.
Alors, c'est très bien, bien sûr, c'est très bien si on n'en fait pas une espèce d'armée verte. Vous savez, on a toujours vu des mouvements instrumentaliser la jeunesse au service de combats qui, en réalité, étaient des combats dangereux parce que c'était des combats qui faisaient que ces jeunes devenaient révoltés, devenaient... dangereux même, dangereux pour eux-mêmes et pour leur société, alors qu'il aurait beaucoup mieux valu en faire des gens intelligents au service, justement, de cette lutte raisonnée contre le changement climatique.
Bon, alors on voit et on entend que ça tire dans tous les sens dans votre
livre. Non, n'oubliez
pas,
Patrick, que je suis professeur à la Sorbonne, que j'ai des jeunes et que ces jeunes, justement, ils arrivent souvent avec leurs idées reçues et que nous travaillons ensemble sur l'agriculture, sur le développement durable, sur les ressources.
Oui, bon, dans votre viseur aussi et on en terminera avec ça. Bon, on a parlé de l'alimentation qui, dites-vous, n'a jamais été aussi saine. Dans votre viseur, le bio préconisait un système où on produit un tiers de moins, ce qui oblige à vendre un tiers plus cher. Ça ne peut pas être un modèle, écrivez-vous, Sylvie Brunel.
Alors voilà, moi je respecte le bio. Je pense que le bio ne peut pas être une panacée. C'est-à-dire, quand on nous dit qu'il faut faire du tout bio, c'est une erreur. 90% de notre alimentation est une alimentation raisonnée, conventionnelle. Alors c'est un mauvais terme. Et les bio ont toute leur place, mais comme une niche.
Oui.
Si demain nous passons intégralement au bio, la France perdra son indépendance et sa souveraineté alimentaire, alors qu'elle est aujourd'hui encore une grande puissance agricole grâce à ceux qui nous nourrissent quotidiennement en toute sécurité et que nous bafouons.
Ce que vous visez, Sylvie Brunel, vous les accusez de haine de l'humanité, c'est l'un de vos, vos chapitres.
Oui, c'est quelque chose qui me marque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, en plus, plus ils sont vieux, plus ils tiennent ce discours, on est trop nombreux, le problème, c'est toute cette population proliférante. Alors, vous remarquerez que les gens qui s'estiment trop nombreux, en général, ont dépassé l'espérance de vie qu'ils auraient dû atteindre si on n'avait pas fait des progrès qui leur permettent justement de nous tenir ces discours culpabilisants. Il n'y a personne qui soit en trop sur la Terre. Quand les femmes vivent mieux, elles ont moins d'enfants, elles s'engagent dans des systèmes durables. Malthus disait déjà au XVIIIe siècle, alors qu'on était 1 milliard sur la Terre, qu'on était trop nombreux et qu'au banquet de la Terre, les pauvres ne pouvaient avoir leur place. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. En 2050, nous serons probablement 10 milliards. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est plutôt le vieillissement. La moitié de la population mondiale est passée en dessous du seuil de renouvellement des générations. Arrêtons d'incriminer l'autre, l'autre, le coloré, celui qui vit de l'autre côté des frontières. Il a exactement les mêmes attentes que nous. Vivre ensemble en paix sur un monde durable.
Sylvie Brunel, toutes ces idées qui nous gâchent la vie, alimentation, climat, santé, progrès, écologie, ça paraît dans quelques jours chez Jean-Claude Lattès et ça va faire polémique, vous le savez, Sylvie Brunel, évidemment.
Je n'ai fait usage que de mes convictions de 60 ans passés sur la Terre.
Merci à vous.
Merci Patrick Cohen. Europe 1.
Et dans un instant, la suite, le cinéaste André Téchiné nous présente son nouveau film, Une grand-mère, Catherine Deneuve, confrontée au mystère de la radicalisation islamiste. L'adieu à la nuit sort mercredi prochain. André Téchiné avec nous dans un instant.
Europe 1. Vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour André Téchiné.
Bonjour.
L'adieu à la nuit est votre 22e ou 23e long métrage et l'8e avec Catherine Deneuve. Mais ce que vous nous racontez est inédit chez vous et assez rare au cinéma. C'est l'histoire d'une radicalisation islamiste et d'une grand-mère, Catherine Deneuve, qui découvre chez son petit-fils, qui vient lui rendre visite dans son élevage de chevaux, le projet de partir au djihad. Il y a toujours chez vous l'envie de surprendre, de ne pas refaire des films déjà tournés?
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça. Il y a toujours l'ambition de mettre des images et des sons là où il n'y en a pas encore, hein, et de montrer des scènes qui n'ont pas été abordées par le regard d'un cinéaste ou le regard de la caméra. Voilà, essayer en quelque sorte, voyez, de mettre du récit là où ça manque. Voilà.
La radicalisation islamiste, c'est quand même un sujet casse-gueule.
Ah oui,
je sais,
certes,
je sais que vous êtes documenté.
Oui, mais je ne l'ai pas posé, voyez, en ces termes-là. Je n'ai pas du tout voulu faire un film à thèse sur la radicalisation. Non, en fait, je suis parti de choses très concrètes. Hein. Je suis parti de dialogues, de témoignages de ces jeunes islamistes. Et j'ai été très, très frappé et très fasciné par leur parole. Et c'est cette parole que j'avais envie de respecter. Et c'est cette parole que j'avais envie de donner à entendre aux spectateurs. Mais le film, j'ai essayé le plus possible de l'éloigner, si vous voulez, de sources policières ou de sources judiciaires, ouais, pour revenir à cette parole de ces jeunes tout à fait convaincus de se déraciner et de partir en Syrie.
Fanatisé.
Puisque ça se passe en 2015.
Ouais. Ouais. Comment on trouve l'équilibre dans l'écriture entre le réalisme et le romanesque, André Téchiné?
C'est du romanesque, c'est de la fiction. Hein. C'est, ouais, c'est de la fiction. Là. C'est-à-dire que, mais pour garantir ma fiction, j'avais évidemment besoin de puiser des éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la réalité. Mais le film, c'est une fiction. C'est qu'est-ce que cette grand-mère peut faire à partir du moment où elle se rend compte que son fils est passé de l'autre côté, que son fils va s'engager dans ce combat. C'est quand même ce qu'il y a de pire, évidemment, pour elle et pour nous tous. Bon, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place?
Bon.
Et ça, pour moi, ça pouvait créer un suspense. Et en tout cas, C'est ce suspense que j'ai essayé de développer pendant le film, pendant le récit. Quoi.
Avec une gravité du sujet, évidemment, mais une subtilité des portraits. Parce que vos deux jeunes héros, joués par Oulaya Amamra, qu'on a vu dans Divine, et Kassem Oteklin, ils sont amoureux, ils sont sensibles, ils sont attachant d'une certaine façon. C'est ce que vous souhaitiez, André Téchiner?
C'est-à-dire que, oui, ils veulent sans doute devenir des automates, des robots et laisser un peu leur enveloppe humaine pour s'enraciner dans le ciel, loin de tout ce qui est terrestre, quoi. Bon, mais en même temps, Dieu merci, pour moi, ils restent humains et c'est justement à leur insu cette part humaine qui m'a intéressé chez eux. Et je voulais surtout pas en faire, si vous voulez, des posters sociologiques, quoi. Hein. Je n'aime pas la sociologie. Je voulais ces personnages, même s'ils partagent évidemment la même idéologie religieuse, la même croyance, ces personnages, ils ne valent que pour eux-mêmes. Et c'est leur caractère et leur destin qui m'intéressent avant tout.
Adieu à la nuit, le titre du film, c'est votre personnage Alex qui écrit cela à sa grand-mère pour dire son envie de fuir ce monde qui le dégoûte. Adieu à la nuit, c'est à la fois effrayant et terriblement romantique, non ?
L'expression de l'adieu à la nuit, c'est une expression que j'ai prélevée chez un jeune djihadiste qui écrivait une lettre pour dire au revoir à ses parents. Il a écrit « Je vais vers la lumière, je dis adieu à la nuit » et donc c'est devenu le titre du film.
Et en face, donc, Catherine Deneuve, c'est votre 8e film, je le disais avec elle, depuis plus de 35 ans depuis ce merveilleux Hôtel des Amériques avec Patrick Devers. Mais c'est encore une autre Catherine Deneuve que vous proposez dans ce film.
Surtout justement, comme vous parlez du premier, enfin du film de notre rencontre qui est Hôtel des Amériques, où c'était un personnage de Belle au bois dormant, oui. Hein, voyez, bon, personnage assez somnambulique. Là, au contraire, c'est le portrait d'une femme terrienne que j'ai voulu faire, d'une femme terrienne, puisque...
Elle vit au milieu de ses chevaux.
Elle vit dans l'exploitation fruitière aussi, parce que pour moi,
oui, y a les
fleurs
cerisiers.
Et les fruits, les cerisiers, exactement, ont beaucoup d'importance dans le film. Et elle vit dans ce centre équestre dont elle s'occupe et elle prend des initiatives, par exemple pour le tourisme équestre dans les montagnes, enfin, dans les montagnes des Pyrénées enneigées. Enfin, elle est très active. Elle transmet aussi des leçons d'équilibre aux enfants par rapport aux chevaux. Enfin, elle est vraiment terrienne et ça me plaisait beaucoup de confier à Catherine, parce que j'ai la chance de la connaître aussi un peu dans la vie et je sais que tout ce qui touche aux animaux, la biologie végétale, tout ça, ça la passionne. Donc, mine de rien, je continue à faire mon documentaire sur Catherine Deneuve à travers des fictions, quoi.
Muriel, donc, vous vous demandiez qu'est-ce qu'elle peut faire face à son petit-fils, Muriel qui va aller jusqu'à enfermer son petit-fils Alex dans une écurie pour l'empêcher de partir. On va écouter à la radio, évidemment, écouter cet extrait.
D'accord.
Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?
Je veux pas que tu partes.
Mais de quoi tu parles ?
Mais tu mens, Alex, t'as toujours menti. Depuis que t'es petit, tu racontes des histoires, mais là, c'est pas pareil.
T'as fouillé dans mes affaires ?
Et toi, tu m'as volé. Mais tu croyais pas que la banque allait me prévenir ? Tu croyais pas que j'allais chercher à comprendre ? Et ben maintenant, ça y est, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul ? Tu vas passer la frontière ? C'est ça ?
Ouvre.
Non.
Ouvre.
Non.
Ouvre. Ouvre ! Ouvre !
Je ne veux pas que tu partes, dit Muriel Catherine Deneuve à son petit-fils Alex Cassé-Motteclin. Elle est forte là ou elle est fragile en faisant ça, André Téchiner ?
C'est-à-dire qu'elle est tout à coup confrontée à une action et elle ne peut pas, c'est pas possible, elle ne peut pas trouver la réaction juste à ce moment-là. Je crois que c'est impossible. Elle cherche, et elle cherche, mais d'une façon un peu aberrante, enfin un peu irrationnelle. Là, ce que vous venez de faire entendre, c'est-à-dire le moment où tout à coup elle décide de l'enfermer dans l'écurie, c'est complètement idiot. En plus, ça ne peut durer que très très peu de temps. Mais c'est parce que elle-même, elle se dérègle, quoi. Bon, c'est comme si c'était un jeune homme en feu et que tout à coup, elle prend feu. La grand-mère prend feu aussi, quoi. Bon, et là, c'est d'ailleurs suivi, ça, On l'a pas entendu, mais ça c'est suivi. Puis je ne vais pas non plus m'amuser à raconter tout le film.
Non, mais
après, c'est suivi d'une scène où carrément elle se met à picoler, qui est une scène carrément comique, quoi, de douche écossaise, parce que pour elle, c'est un dérèglement absolu, parce que ça touche à son petit-fils et ça lui tient à cœur, et c'est sans doute la personne au monde qu'elle aime le plus.
On le voit. On le voit, et on voit dans ce jeu de Catherine Deneuve, c'est sans doute l'un de ses plus beaux films de ces dernières années. C'est vraiment quelqu'un qui vous inspire et qui continue de vous inspirer, André Téchiné, au moment de la conception d'un film ou de l'écriture d'un film.
Bah oui, c'est-à-dire que là, par rapport à mes personnages et à leur jeunesse, hein, parce que c'est une transition juvénile, ils ont entre 15 et 25 ans, en fait. Hein, bon. J'avais envie du regard de quelqu'un de ma génération. Et bon, il y a toujours comme ça une espèce d'alter ego fraternel ou avec Catherine Deneuve. Et immédiatement, bien sûr, c'est à elle que j'ai pensé. Oui.
Merci beaucoup André Téchiné. L'adieu à la nuit, votre nouveau film, mercredi prochain sur les écrans avec Catherine Deneuve, Cassé Motéclin et Oulaya Amamra. Merci à vous.
Europe 1.
Restez avec nous dans quelques instants. Youssou N'Dour, chanteur, ministre, homme d'affaires, grand musicien surtout. Son nouvel album History paraît dans quelques jours. Youssou N'Dour, à suivre.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Europe 1,
c'est arrivé demain. On se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Youssou N'Dour.
Bonjour.
History, c'est le nom de votre nouvel album où, comme chaque fois, souffle beaucoup d'influence avec dans vos chansons du Wolof, de l'anglais, du français. Mais c'est toujours l'Afrique qui domine, votre Afrique ouverte et positive.
Oui, mon Afrique ouverte et positive dans la mesure où c'est quand même le souffle nouveau de cette musique africaine urbaine qui aujourd'hui traverse cet album avec notamment des collaborations avec des plus jeunes qui sont dans la composition, dans l'interprétation et tout. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à cette époque.
Avec une figure historique, un grand ancien que vous avez rhabillé en quelque sorte, Baba Tunde Olatunji, qui était-il?
Baba Tunde, c'est la première vedette africaine aux États-Unis. Il est du Nigeria, grand percussionniste, chanteur, compositeur, qui malheureusement nous a quittés et qui avait laissé à son neveu des enregistrements inédits. Et son neveu, fan de ce que je fais, m'a rencontré aux États-Unis il y a quelques années déjà et m'avait fait part de ses compositions que j'ai écoutées. J'ai eu des frissons. Et donc, j'ai vécu avec ces mélodies et j'ai essayé de compléter, en fait, ces mélodies, ou en tout cas ces chansons que Baba Tunde a laissées. Et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, ces deux titres. Et vraiment, c'est une manière de rendre hommage à ces grands musiciens.
La voix et la musique de Baba Tunde, revisitée par Youssou N'Dour, voici Dagouta. Youssou N'Dour, c'est un hommage, c'est le rôle aussi d'un griot de transmettre, de perpétuer les traditions musicales.
On dit qu'avec les griots, rien ne se perd. Même des choses des fois oubliées comme ça dans la rue, on va essayer de les nettoyer pour les représenter. Et je pense que ça, c'est le rôle du griot de Youssou N'Dour.
Petite parenthèse, parce que vous citez Baba Tunde là, sur votre album, contrairement un autre grand de la chanson, Serge Gainsbourg, qu'il avait pillé pour son album Gainsbourg Percussion. Si on entend cette chanson originale de Baba Tunde de l'album Drums of Passions.
Hmm.
On reconnaît exactement New York USA de Gainsbourg.
Ah ouais, mais ça, je savais pas. Je savais pas. Vous faites découvrir.
Il l'avait cité, des années après, Gainsbourg avait rendu à Baba Tunde ce qui lui appartenait. Alors, vous n'avez pas seulement, Youssou rhabillé les chansons des autres, mais aussi les vôtres, ainsi Birima, où apparaît une voix féminine magnifique.
Said you love my truth, but I don't think you hear. Time to share the fruit, cause you watered it with my blood. Say you want me, but only when I am easy. No. This one's for my father, and his father is about where we come from, not about what you run from. This one's for my father, and his father is about where we come from, not about what you run from.
Whoa, Birima.
Birima, Youssou N'Dour et Senabo, c'est qui est-elle?
Senabo, c'est une Sénégalaise gambienne qui est née en Suède et qui me disait même hier quand on parlait, elle disait que cette mélodie c'est un hommage à son père parce qu'elle a grandi avec cette mélodie et elle voulait faire quelque chose pour rendre hommage à son père. Et je pense que voilà, c'est ce que j'ai toujours reproché à la nouvelle génération en leur disant que vous avez des mélodies qui ont existé ici en Afrique et il faut les utiliser au lieu d'aller piquer surtout les choses qui viennent de l'autre côté.
Il y a aussi une chanson avec quelques paroles en français qui parle de la rue dakaroise et d'un personnage pas très glorieux, un frimeur. Quoi, pour tout dire, hein, c'est Makumba.
Arrête de fumer et de frimer comme Memba, ni de parler tout le temps comme Mademba. Et puis tu cesses de t'habiller comme Masamba. De toute façon, tu ne seras que Makumba. Oh yeah. Uh-huh. Oh yeah. Le temps de Maïma, Maïma, maintenant c'est fini. Travailler auprès de Moudi. Arrête de nous parler sans cesse de la belle vie et pense plutôt à ton avenir petit. Makumba Sabali, Makumba Sabali. Arrête, Makumba. Makumba Sabali, Makumba Sabali. De toute façon, tu ne seras que Makumba. Makumba Sabali, Makumba Sabali.
Des frimeurs glandeurs comme ça, vous en croisez beaucoup à Dakar, à Youssou N'Dour?
Mais un peu partout. Moi, je trouve que bon, voilà, les parents ont démissionné. Je pense qu'aujourd'hui, il faut. Voilà, l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est aussi parler aux gens, aux enfants, aux jeunes, leur donner les bons conseils, la bonne direction et tout. Et c'est dans ce cadre-là que je parle de Makumba qui est parti dans une direction très hasardeuse.
Et qui n'a pas le sens du travail
du tout,
et d'effort.
Voilà.
Makumba, Youssou N'Dour. On marque une pause. Et on parle de vos autres activités, Youssou N'Dour, le politique. A tout de suite.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain, jusqu'à 10h sur Europe 1.
Avec Youssou N'Dour, star mondiale, homme aux vies multiples, vous continuez de vous démultiplier, Youssou N'Dour. Aidez-nous à mettre à jour votre fiche. Toujours ministre?
Oui.
Auprès de Macky Sall?
Oui, conseiller, oui.
Quel est votre rôle?
Je suis très content de pouvoir rendre la monnaie à mon pays, qui m'a vu grandir, qui m'a toujours donné quelque chose. Et je pense qu'on est utile pour faire face à des choses. J'ai une expérience, un réseau, un vécu, dont voilà, je veux faire profiter mon pays.
Toujours patron de presse?
Oui. C'est comme tous les gens qui gagnent de l'argent. Voilà, moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai investi comme des gens, ils vont investir dans la bourse ou faire des immeubles et tout. Moi, j'ai voulu créer des emplois et je trouvais que dans le domaine de la presse, il y avait des choses à faire, non seulement pour l'équilibre de l'information Et aujourd'hui, nous sommes le premier groupe de presse. Mais rassurez-vous, ce n'est pas moi qui fait le contenu, hein, ni la programmation. Je découvre le journal comme tout le monde. Regarde la télé ou la radio.
Qui admirez-vous aujourd'hui dans le monde parmi les grands leaders mondiaux? Je sais, on connaît cette anecdote. Barack Obama vous a dit un jour oui. qu'il était fan de vous, que vous étiez l'une de ses idoles. Et ça vous a évidemment flatté et fait plaisir. Et aujourd'hui, nostalgique d'Obama, oui?
Oui, Obama, ça m'a fait énormément plaisir parce que bon, je me souviens du jour de l'élection d'Obama. J'ai crié comme beaucoup, beaucoup de gens et c'était une belle surprise pour moi. C'est une référence, quelqu'un qui non seulement a incarné ce que l'Amérique est au vrai sens du mot, c'est-à-dire voilà, les Noirs, les Blancs et tout. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un discours fédérateur, un discours gentleman. Et ça me parle énormément. C'est une de mes références, Barack.
Il n'a pas d'héritier?
Oh oui! Oui, je crois que bon, voilà, les choses s'enchaînent pas comme on voudrait, mais bon, je pense que certainement il va laisser des traces et il a laissé des traces.
Mais votre idole définitive, c'est Nelson Mandela.
C'est Mandela.
Il aurait eu 100 ans l'an dernier. Il a changé votre vie, Mandela?
Oui, je me souviens de cette chanson que j'ai eu à écrire en 85 pour expliquer à ma mère qui était Nelson Mandela, l'histoire de l'apartheid. Et après, le lendemain, je me suis dit, c'est une chanson pour tout le monde. Et je l'ai rencontré à Dakar quelques années plus tard. J'ai pleuré comme un gamin.
En tête à tête?
En tête à tête.
Vous étiez tous les deux.
Ouais, c'était très très fort. Il dégage quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Et il reste à jamais voilà, mon idole, ma référence. Et mon dernier fils porte son nom.
Vous l'avez. Votre dernier fils s'appelle ouais.
Nelson.
Nelson.
Nelson Ibrahim Ndour.
Merci beaucoup Youssou N'Dour.
C'est moi.
D'être venu nous présenter ce nouvel album History en sortie mondiale là, oui. Ces jours-ci chez Naïve. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Retrouvez C'est arrivé demain tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.